Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com. Bienvenue à Star Wars en direct édition Clone Wars. Cette semaine, nous nous concentrons sur le dernier épisode Trespass. Il a été écrit par Stephen Melching et mis en scène par Brian Killing O'Connell. L'épisode se résume ainsi. Alors que Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi enquêtent sur la mystérieuse disparition d'une force de la République, ils se trouvent pris dans un conflit opposant les habitants d'une planète de glace et représentant d'une planète voisine. Les personnages clés dans cet épisode, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, sénateur Ryo Chuchi, le président Chicho, le chef Tintin Chieftain, C-3PO et le capitaine Rex. Le lieu où cet épisode se déroule est sur la planète de glace Orto-Plutonia. Comme nouveau personnage, nous avons Brian George qui joue le rôle du Chairman Cho. Il y a Jennifer Hale qui joue la sénatrice Chuchi. C'est elle-même qui jouait Ella Secura. Et Robin Atkins Downs qui joue le garde pantorier. L'histoire de Trespass se déroule comme suit. Les Jedi ont perdu tout contact avec un avant-poste républicain basé sur la planète neigeuse Orto-Plutonia. Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker se rendirent sur place avec les représentants de la lune de Pantora. 5 canonnières républicaines fendirent les cieux d'Ordo-Plutonia, zigzaguant entre d'immenses colonnes de glace. Leur destination n'était autre que la station Glide, une base mise en place après la demande du président de Pantora, la lune dont dépend Orto-Plutonia. Les canonnières s'opposèrent et libérèrent leur contingent de passagers. Outre les clones du capitaine Rex, Kenobi et Skywalker se retrouvent accompagnés du président de Pantora, un homme impétueux nommé Chicho. Agissant en tant qu'intermédiaire avec la République, la jeune Ryo Chuchi, sénatrice républicaine. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'enceinte de la base, une vision de mauvais augure se présente devant eux. Des lances figées dans des casques de clones avaient été disposées pour les accueillir, pour les prévenir qu'ils n'étaient pas les bienvenus en ces lieux. Craignant plus que tout une attaque séparatiste sur sa planète, le président Chicho conflua à une action des confédérés. Kenobi demeura sceptique car aucune trace de carcasse de droïde n'était visible et les ordinateurs républicains n'avaient pas été piratés. Mais avec l'annonce de Rex de la présence d'une base séparatiste non loin, Chicho était plus que persuadé d'avoir raison. Les républicains déployèrent 6 Swoop Bikes Freeco pour mettre au clair la situation. Les Jedi menèrent leur détachement jusqu'à la base séparatiste. En réalité, 2 transports XT Beetle dont les entrailles ne renfermaient que des droïdes de combat démembrés. Néanmoins, Kenobi et Skywalker trouvèrent quelques indices. D'abord de larges empreintes de pieds dans la neige et ensuite l'ultime rapport d'un droïde enquêtant dans le canyon sud de la planète. Tandis que les Jedi se rendaient dans le canyon, Cho ordonna aux clones de se préparer à une attaque séparatiste. Malgré des remises en question de la jeune sénatrice sur les éléments qui avaient permis au président de conclure à une action séparatiste, Cho demeura obstiné face au manque d'expérience de la jeune Chuchi. Pendant ce temps, Kenobi et Skywalker étaient tombés sur un campement Talz, de grands humanoïdes à épaisse fourrure. Malgré quelques problèmes de communication, les Jedi parvinrent à faire comprendre aux Talz leur mission et leurs intentions. Quittant le camp Talz, Obi-Wan Kenobi vérifia les bonnes intentions des Talz lorsque leur chef Tisen le serra dans ses bras comme un vulgaire pantin. De retour à la base républicaine, la situation se compliqua. Le président Cho décida prestement que les Talz étaient une menace à la souveraineté de Pantora sur le système et sur cette planète. Ordo-Plutonia était un protectorat de Pantora. Ansa, le représentant de Pantora, a tous les droits sur la planète. Bien que Chuchi affirmât que la présence d'habitants nécessitant une décision du Sénat galactique, le président ne le voyait pas du même œil. Selon lui, les Taz n'étaient rien que des sauvages qui devaient être affrontés. Une rencontre était prévue entre les différents partis. Cho demanda une escorte armée pour les accompagner. Rex fut chargé de les protéger par tous les moyens possibles pendant que les Jedi, avec l'aide de la sénatrice Chuchi, chercheraient un moyen de régler le différend les opposant au président de Pantora. Mais la situation sur le lieu de rendez-vous tourna rapidement à un affrontement armé. Les Frico et Speeder Bark se retrouvèrent immobilisés et servaient de barrière face à l'avancée des Taz. Rex voyait ses hommes mourir un à un. La garde de Cho n'était pas en meilleur état et le président lui-même fut blessé mortellement. Rex et quelques survivants mirent le cap sur le campement républicain, mais furent adroitement repoussés à l'aplomb d'un ravin. Bloqués, les clones formèrent une haie de protection avec leur véhicule. Mais le rapport de force était terrible et Rex ne dut sa survie qu'à l'interruption des canonnières républicaines qui vinrent se placer entre les forces rivales. Au-delà de la puissance de force, c'est l'arrivée de la République qui changea la donne. L'autorité du président de Pantora n'était plus. La sénatrice Chuchi avait obtenu auprès du Sénat qu'une enquête menée par les Jedi soit mise en place. Manœuvre politique des plus adroites puisqu'elle permit à la jeune sénatrice de refuser le dernier ordre du président Cho. L'ordre de mener le combat jusqu'à la victoire en son honneur, pour que sa mort imminente ne soit pas inutile. Elle n'en fit rien et préféra aller sceller une paix entre les peuples Pantora et Talz sous les yeux inexpressifs de C-3PO. Moi et François avons discuté de cet épisode et voici nos commentaires. Donc, je suis en compagnie de François. Salut, François.
Bonsoir.
Donc, tu viens d'écouter le dernier épisode où il n'y a pas très longtemps. Première impression,
c'est que pour moi, c'est un très, très bon épisode, excellent même. Je dirais que c'est parmi les meilleurs, en tout cas de mon avis. Mm-hmm. Seulement du fait que au niveau de la musique, au niveau de la bande sonore, ça complimente tellement bien l'épisode. Puis s'il n'y a pas toutes les espèces de gags inutiles comme il y a d'habitude, il y a vraiment une morale très sérieuse dans l'épisode. Donc pour moi, c'est un des meilleurs épisodes.
Mm-hmm. Il y a comme vraiment une morale dans le fond, dans le précédent, que c'était vivre et laisser vivre, tandis que dans celle-ci, c'est plus il faut pas, justement le petit fortune cookie, l'arrogance diminue la sagesse, ça s'applique carrément au chef,
au chairman, donc
des Pantoran,
qui était comme au début de l'épisode. On pouvait comme deviner d'avance là, parce que juste dans son faciès, ils l'ont vraiment caricaturé. C'est comme un méchant quasiment là.
Il manquait les moustaches qui roulaient là.
Ouais, c'est ça, je dirais juste dans les traits du visage, la race en tant que telle, on voit que il y a vraiment une différence soit entre hommes et femmes ou entre adultes et enfants là, au niveau des traits, en tout cas le trait d'adulte mâle sont très pointus et l'ossature est très pointue, tandis que la sénatrice en tant que telle, elle ressemble beaucoup plus à Amidala. En fait, c'est comme une espèce d'Amidala. Mm-hmm. Parce qu'elle a les features, comme on dirait, les traits de faciès qui est très rond et doux, si on veut.
Elle aurait pu être le modèle utilisé pour Amidala plus jeune, un peu, dans le fond.
En fait, on dirait qu'ils ont utilisé pratiquement le même modèle, ils ont juste coloré la peau.
Non, elle apparaît quand même un peu plus vieille quand tu regardes le modèle actuel.
Ils ont quand même gardé un peu les mêmes caractéristiques au niveau de l'habillement. Tu sais, elle avait la chevelure un peu...
C'était mauve,
style de
violet.
Ouais. Puis il y a comme les bonnes sur le côté, donc les gros choses de cheveux sur le côté là. Mm-hmm. Un peu à la Leia.
Puis les deux c'est la race les plutoniers, ou non, c'est pas les Pandoran. Les deux avaient comme des espèces de traces jaunes sur les joues comme.
Ouais, oh. Puis ça se répétait aussi sur leurs vêtements, c'est très jaune là, donc
OK. J'avais pas remarqué en effet. Bon, si on regarde la petite BD, il y avait une petite BD bien sûr en ligne. Bon, ça s'appelle, elle s'appelait, la BD en ligne s'appelait Cold Snap, qui en dans le fond montrait comment les clones avaient des conditions difficiles sur la planète, comment ils adaptaient leur speeder pour le froid, tu sais, un peu comme dans P contre-attaque, que leur nourriture était tout le temps gelée, etc. Puis on voit à la fin l'attaque des Taz sur la base. Donc on voit rapidement une attaque. On les voit juste en silhouette un peu, mais on sait que c'est eux dans le fond.
En fait, j'ai bien aimé la BD aussi. Honnêtement, au niveau de la qualité de l'image aussi, de la BD, du dessinateur, je trouverais ça beaucoup plus professionnel puis moins destiné aux enfants. C'est même la bande dessinée en tant que telle, les couleurs, les dessins étaient déjà mieux. En fait, j'aurais aimé que cette partie-là soit dans l'épisode. Ça aurait complémenté encore mieux l'épisode.
Et on dirait que c'était fait à l'ordinateur en grande partie, là, les dessins, etc. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne introduction. Je veux dire, mais on aurait perdu la surprise des têtes sur les lances, dans le fond.
Ça, c'est sûr.
L'aventure se déroule sur la planète Ordo Plutonia, qui est mentionné que c'est la planète des Tals, sauf que dans l'univers étendu, bien sûr, on va aller parler de l'univers étendu. Originalement, moi, quand j'ai vu les Tals, c'était dans la cantine dans A New Hope.
Ouais, c'est ça.
Et puis, on les voyait aussi, il y avait un Jedi Tals dans la micro-série Clone Wars. Je sais pas si tu t'en souviens, vers les derniers épisodes, quand il allait sauver Palpatine. Palpatine était en train de se faire kidnapper. Et puis, il y avait un Tals, puis un Itorien qui criait, puis faisait des ondes de choc, là.
Avec ses... Je m'en rappelle plus.
Enfin, il y avait
On voit que, en tout cas, les Tals sont acclimatés à tous les environnements, parce que s'ils sur Tatooine, dans la cantina, puis s'ils ont une planète glacée, donc, ils sont vraiment adaptés pour aller vivre partout, là, si on veut.
Mais la planète d'origine, avant que Clone Wars existe, c'était Alzok 3. Donc, dans la plupart des guides de l'univers étendu, c'est Alzok 3. Et soudainement, dans la nouvelle encyclopédie de Sansweet, qui inclut la première saison de Clone Wars, ah non, les Tals sont origine de deux planètes différentes. Ah bon? OK. Ah. Soudainement, là, c'est comme, ah non, ils ont encore bousillé l'univers étendu juste pour complaire à la série Clone Wars. C'est comme, non, encore. Tu sais, c'est comme... Merde.
Mais évidemment, on voit aussi énormément de ressemblances avec Hoth. Ça, c'est sûr qu'ils ont fait beaucoup de liens avec ça. Même dans le commentary, je pense qu'ils mentionnent beaucoup les liens qu'il y a entre les deux.
Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de faire leur propre Hoth, là. Ils ont essayé de se fier plus au concept de Ralph McQuarrie qu'autre chose, là. Mais la chose que je comprends pas par rapport au Tal, c'est que si on les voit dans la cantine, puis s'il y a un Jedi Tals, comment est-ce que ce reste-là peut être aussi primitif puis pas avoir de vaisseau spatial pour se déplacer? Parce qu'ils sont pas pris sur cette planète-là. L'autre planète non plus, ils ont quitté la planète pour aller sur Tatooine ou pour aller à Coruscant comme Jedi. Donc, j'imagine à moins qu'ils font juste accompagner, là.
Mais j'ai pensé un peu à ça, moi aussi, mais... En tout cas, j'essaie de faire un lien qui est assez loin, là, mais c'est que lorsque les clones, les Jedi sont des séparatistes là, sur la planète, ils ont vu un message d'un droid là, en hologramme qui lançait un peu un appel de détresse aux séparatistes. Donc, je sais pas, est-ce que les séparatistes vont revenir et prendre cette planète-là, donc ça va peut-être les éloigner ou peut-être les prendre en otage, puis ils vont peut-être se sortir de cette planète-là et devenir une race qui sont sur plusieurs planètes.
Civilisée, ouais. Peut-être.
Ou qui deviennent des esclaves, d'une certaine façon.
Ou tout simplement que ceux sur Alzok 3, c'est les Tals civilisés, et puis ceux sur... Ordo Plutonia, c'est une forme plus primitive, là, dans le fond. Ils n'ont pas évolué séparément, mais il y a eu à un moment donné, soit qu'il y en a un qui est parti il y a très longtemps, et puis que ça a été sur une autre planète.
Parce qu'Obi-Wan mentionnait aussi dans cet épisode-là que ça faisait très longtemps qu'il s'entend avant même l'autre peuple. Donc.
En effet. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner qui était intéressant dans ce film-là? Bon, tu avais plusieurs clins d'œil, bien sûr. Le fait que c'est... Justement, le fait que, bon, un clin d'œil à l'Empire contre-attaque, la neige, une base dans...
C'est 3PO et R2-D2, en fait, qui sont là, tu sais, qui ont aussi froid que dans Empire Strikes Back.
C'est ça. T'as les nouveaux costumes arctiques, qui est un peu une transition entre un clone trooper et un snow trooper. Donc, au début, je pensais même pas que ça serait Rex qui serait dans l'épisode, d'après le preview de la semaine passée, mais finalement, c'est juste lui qui a un habit différent, donc c'est intéressant.
Ouais, mais il y a comme des comme un peu des tatous sur son casque, si on peut appeler ça comme ça, des sigles. Mm-hmm. Qui sont supplémentaires aux autres. Là.
Mm-hmm.
Il y a aussi Anakin qui donne un coup sur la console pour pouvoir la faire partir. C'est très Han Solo.
Ouais, comme pour le faucon, dans le
comme
fond.
Comme geste. Là. Il est habillé en bleu. Donc, ça faisait très Han Solo.
Mm-hmm. C'est vrai. Les animations étaient super bien faites. Tu voyais les respirations, la condensation, la respiration. Tu voyais la vitesse de la neige, comme il était mentionné dans les commentaires de Dave Filoni, que
ouais,
quand c'était... Quand il y avait plus de tension, il neigeait plus fort. Puis quand c'était résolu ou quoi que ce soit, c'était de la petite neige qui qui tombait plus calmement, disons-le.
Une affaire que j'avais remarqué aussi, c'est les plans de vue, quand ils sont dans leur petit speeder puis qu'ils s'en vont dans la neige, les plans de vue ont été pris pratiquement, on dirait, dans la pod race. Si tu regardes à nouveau l'épisode, tu vas voir qu'il y a plusieurs... plan de vue qui on dirait vraiment que c'est pris de la pod race là, avec la petite trail de neige en arrière à place que ça soit du sable.
Mm-hmm.
Mais c'est comme tu le vois de très haut.
C'est vrai, j'avais pas maintenant que tu le mentionnes, en effet, il y a des similitudes assez évidentes.
Parce que c'est comme des grosses colonnes, un peu comme si c'était dans le canyon sur Tatooine. Donc ça ressemble beaucoup à ça.
Moi, qu'est-ce que ça m'a fait penser, les grosses colonnes, c'est le film Clone Wars, quand il attaque les espèces de grosses colonnes avec le monastère en haut. Je me souviens même plus du nom de la planète. Dans le film Clone Wars, qui font l'attaque verticale. Là.
Ouais, je sais, mais je me rappelle plus non plus de la planète. Là.
Mais bon, le premier coup, ça m'a fait penser à ça. Mais que tu mentionnes que c'est comme les canyons sur Tatooine, en effet, c'est très similaire. Il y a évidemment un autre « Most Impressive ».
Ouais, ça j'ai aimé aussi. Aussi un Here They Come qui est très beau là.
OK, non, j'ai pas remarqué. J'ai remarqué par exemple ça, justement, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de I have a bad feeling about this, donc c'est bien.
Mais ils ont eu la leçon.
Ils l'ont remplacé par Most Impressive peut-être.
Mais, on voit encore que vas-y. C'est aussi appelle son maître Master Annie, donc il y a encore une bonne familiarité entre les deux. Là.
Ah, j'avais pas remarqué ça. Ben moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que t'as le chairman, à un moment donné, il mentionne « It's a trap!
» Ah, ça, je l'ai pas vu.
Quand il était sur les speeders, ben les...
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de one-liners qui ressortent des trilogies dans cet épisode-là. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant, en fait. C'est peut-être de façon subliminale, mais c'est comme... Il y avait vraiment un esprit Star Wars dans cet épisode-là qui était très bon. Là. Il y avait des attaques, puis... Encore la musique, s'il y a une bande sonore qui sort, faut que toutes les chansons de cet épisode-là soient sur la bande sonore. J'espère que ça va être un intégral qui va sortir.
Ça me surprendrait.
C'est vraiment excellent. Là.
D'après moi, ils vont peut-être prendre une pièce par épisode puis ils vont faire un album avec. Ça, d'après moi, c'est ça. Avant qu'il y ait un intégral, il faut faire qu'il y ait de la demande énorme par les fans. Là.
Parce que dans cet épisode-là, c'est vraiment épique. Là. Si tu regardes même, par exemple, la dernière scène de l'épisode, si tu la regardes une autre fois, tout pendant le speech de la sénatrice au chef de la bande des Tals, puis ensuite Obi-Wan qui parle avec la sénatrice, et vraiment la dernière scène, toutes les gunshots qui partent en angle qui avec la musique, puis l'espèce de poteau avec le casque du chairman, c'est vraiment un très beau moment là. C'est vraiment émotionnel avec la musique là, donc c'était très bon ça.
Mm-hmm. Il y a des clichés des clichés, je dirais c'est plus le nouveau véhicule que ils appellent les Freako Bikes. C'est une espèce de mélange entre un Land Speeder de Luke avec un Speeder Bike. Je sais pas trop. Ouais. J'ai quand même bien aimé, avec une petite bulle pour se protéger. Mais t'avais quand même des Speeders plus traditionnels qu'on a vu, qui est les Bark Troopers. C'est sûr que les Scouts clones utilisent, je pense, sur Kashyyyk ou quelque chose comme ça, là. Mais on parle...
Il faut que je l'ai, hein, s'il vous plaît, là-dessus. Parce que...
En effet.
Avec le facteur vent.
Malgré que les Pandorans ont l'air habitués au froid, donc même ils ont la peau bleue. C'est pas des schistes, là, mais ils ont la peau bleue, donc j'imagine qu'ils étaient... L'autre planète voisine, ça doit être une planète relativement froide aussi, là. Parlant du chairman, ça faisait du bien qu'il meure, parce que, je veux dire, c'est un imbécile, là, qui était toujours en colère, qui avait une pensée rectiligne, lui, il pensait tout le temps à la même chose, c'est ça de même qu'on fait. Comment il peut être un leader d'une planète avec ce genre d'attitude-là, t'sais? Il veut contrôler, ouais, même la sénatrice, là.
Ouais, c'est ça, ils ont stéréotypé le gars au maximum, là, ils pouvaient pas pousser vraiment plus loin sans le faire mourir, là, je veux dire, c'était un moment donné, change d'idée un petit peu, là. Même qu'il donnait des ordres aux clones, puis je me demande, c'est quoi ça... son rôle dans ça, est-ce que il a le droit de commander, avait l'air avoir le droit de commander les clones?
J'ai l'impression que c'est parce que il mentionnait tout le temps que c'était des affaires internes. Donc c'était peut-être justement à cause que c'était dans son territoire. Les Jedi, théoriquement, n'ont pas d'affaires à intervenir dans le fond. Donc pourquoi que les Throne Troopers sont impliqués? C'est la question que tu poses dans le fond. J'en ai aucune idée. On se posait la même question. C'est certainement, c'était une base des Pantorans qui était pas contrôlée par les séparatistes, mais j'imagine que les Pantorans fournissaient la base et qui étaient équipés avec des clone troopers en cas que les séparatistes arrivent.
Mais c'est ça, probablement qu'ils sont alignés avec la République, donc ils ont le droit d'avoir des clones pour leur protection, j'imagine. Mm-hmm. C'est ça.
En effet.
Mais quand même, les Jedi sont quand même au-dessus, parce que Obi-Wan lui disait non, on fait pas ça, tu sais. Donc, puis Rex, quoi, il respectait plus l'opinion des Jedi, dans le fond. Là.
Mm-hmm. Mais dans le fond, tu sais, Obi-Wan savait que les Taz voulaient la paix, donc pourquoi qu'il a dit aux clones au départ, protéger les Pantorans, OK, être Rex, là, bon, je me mets de quel bord, là, tu sais. Mais
ils disent... Ouais, ils suivent toujours les ordres, eux autres, donc...
C'est certain, mais ils sont protégés. Ils ont pas vraiment tiré en premier. C'est vraiment les... ils ont fait juste défendre les Pantorans, vraiment. Ils ont pas vraiment attaqué. Dans le fond, c'est les Jedi...
Ouais, c'est ça, parce que c'est les Tals qui attaquaient en premier.
C'est ça. Puis les Jedi sont les défenseurs de la paix, donc Defender of Peace, le titre du dernier épisode, donc... dans le fond, on les a pas vraiment vu se battre, mais ils ont quand même aidé la cause. Donc, ils sont là pour la paix et non pour justement faire la guerre comme le chairman voulait, t'sais. Dans le fond, le chairman avait le profil, il manquait juste un chandail rouge, puis c'est comme dans Star Trek, là. C'est comme, tu savais qu'il allait mourir, là.
Ouais.
Puis en plus, le fait qu'il est mort, ça annule un peu l'utilité de mentionner que la sénatrice a demandé la permission à la chambre pour arrêter le chairman. Il est mort, donc normalement, c'est la sénatrice qui prend le commandement sur le terrain, là. C'est elle la plus haute gradée de la planète, donc...
Ouais, mais lui, il est comme dans la royauté, elle est plus sénatrice.
Ouais.
J'ai quand même aimé beaucoup la scène que lui, son dernier vœu, c'était que non, j'ai donné ma vie, tout ça, puis il dit... En fait, son dernier vœu, il est jamais exaucé, là, parce que la sénatrice lui dit « Je peux pas respecter cet ordre-là. » Ils m'ont dit que de « overturn your decision », dans le fond, de pas
renverser,
respecter...
Renverser l'ordre.
C'est ça, parce que il voulait vraiment la paix, là. Donc, il était vraiment, comme on dirait en anglais, « out of line » dans sa pensée.
Mm-hmm. Dans le fond, les Tals aussi me font penser un peu au Felucian que dans The Force Unleashed. C'est un peu le même genre d'être primitif qui quand même... c'est des sentients, quand même, ils pensent. Là.
Une affaire que j'ai pas compris, il était vraiment primitif. On le voyait, là, tu sais, avec juste avec leurs armes, c'est des lances puis des clubs, si tu veux, là, avec des morceaux d'os, de probablement leur espèce de bête qu'ils ont avec eux. Puis quand que Anakin et Obi-Wan regardent le paysage, ils voient des réflexions. Mais où, qu'est-ce qu'ils reflètent? je me posais la question, ils ont rien de métallique. Ouf. Est-ce que c'est leurs yeux qui voyaient une réflexion? Je sais pas, mais il y a rien de métallique dans tout ce peuple-là. Mm-hmm. Ou de vitre.
C'est vrai.
D'où vient la réflexion?
Ouais. Ben, je pense pas. Ouais. Non, c'est pas, c'était pas des feux qui voyaient rien. Ça clignotait vraiment comme un miroir. Donc, c'est vrai que ça venait de deux directions différentes, tandis qu'on voit seulement un camp. Il y a peut-être des cristaux au bout de leur lance qui reflètent un peu la lumière, mais...
Ouais, puis tu peux te poser la question aussi, ils regardent dans deux directions à peu près opposées, donc comment la réflexion, en tout cas de la physique, la réflexion peut avoir...
Alors, moins
que avoir de la réflexion à deux endroits différents. Là.
S'il n'y aurait pas eu de tempête, tu aurais pu dire que le soleil était vraiment au zénith en haut, puis ça l'aurait reflété
ouais,
peu importe la direction.
Il n'y avait pas vraiment de soleil du tout.
Non, là. C'est ça, là, vraiment, là. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi R2-D2 et C-3PO étaient sur la planète? OK, on voit que C-3PO est utile pour faire de la traduction, mais il savait pas au départ qu'à la base, il y aurait besoin de traduction. Là, c'est supposé être une planète inhabitée. Donc,
non, ça, c'est vraiment une question inconnue. Puis je sais pas encore si c'est une question d'ordre des épisodes, parce que Ahsoka n'était pas là non plus, puis elle se tient souvent avec Anakin.
Mm-hmm.
Il n'y a pas eu de combat au sabre laser, c'est une autre différence majeure. Je pense que la plupart des épisodes ont tous des combats au sabre laser.
Mm-hmm.
C'était un des seuls.
C'est vrai.
Peut-être avec l'autre épisode avec les clones troopers qui défendaient une base. Là.
Rookies.
Rookies, ouais. Je sais même pas s'il y avait un combat au sabre laser.
Ouais.
Peut-être que oui.
Ouais, quand... Non, même pas. Ben, y a-tu des Jedi qui viennent les chercher à la fin, mais il me semble que... Ils se défendent eux-mêmes, ça se peut. En tout cas. Une autre raison, pourquoi amener la sénatrice au départ? Tu t'en vas voir sur une planète qui a eu qui ne répond plus. Dans le fond, ils vont voir qu'est-ce qui arrive à la base républicaine. Mais est-ce qu'on a besoin d'amener une sénatrice? Ou ben peut-être que C-3PO accompagne la sénatrice automatiquement. Aussitôt qu'il y a un sénateur ou une sénatrice, il faut que tu aies un traducteur avec toi peut-être. Mais la sénatrice doit avoir son propre droïde de protocole.
Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est une mission diplomatique au travers de tout ça? Je sais pas. C'est comment ça? Parce que eux autres pensent vraiment que c'est une planète inhabitée ou une lune inhabitée au départ. Donc, pourquoi amener un sénateur et des droïdes de protocole là, encore là? C'est un peu inconnu là, mais.
Ben peut-être.
Peut-être c'était une escorte qui ont dévié de leur trajectoire pour pouvoir aller investiguer justement. Mais ça a été coupé, peut-être, s'il y a des scènes coupées.
Ouais. Peut-être c'est juste pour faire le lien entre les Jedi et les Pandorans, les Plutoniens. Non, c'est pas les Plutoniens, mais les Pandorans. Étant donné que les Jedi font affaire avec le Sénat, donc le Sénat font affaire avec les différentes cultures et habitants de peut-être c'est ça que les Jedi font pas affaire directement, peut-être, je sais pas. Selon les règles de l'art. Des lois républicaines, j'en ai aucune idée. Tu mentionnais justement, et où Ahsoka? Peut-être qu'il fait trop froid pour son habillement, non?
Ouais, mais même Anakin puis Obi-Wan t'es bien habillé, donc.
Ben, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment d'explication. Une supposition qu'on pourrait donner, c'est que on a mentionné déjà que la timeline officielle, c'est pas l'ordre dans lequel les épisodes sont diffusés. Donc peut-être que ça se passe avant même que Anakin aille à Ahsoka comme Padawan.
Ben je pense que c'est ça aussi. D'après moi, c'est avant même le film.
Mm-hmm.
Donc.
Puis on n'aurait pas eu besoin d'Ahsoka de toute façon. On avait la jeune sénatrice qui remplissait bien ce rôle-là.
Ouais. En fait, c'est l'épisode. Elle n'aurait pas pu sauver personne parce que les Jedi ont jamais été en danger dans cet épisode-là. Donc.
Mm-hmm. Puis je trouve que la sénatrice. Elle ressemblait plus à une vraie Padawan par rapport à Ahsoka. Ahsoka, c'est la super Padawan qui sait tout puis qui donne des conseils à ses maîtres. Tandis que là, la sénatrice, t'as voyé qu'elle était intimidée puis qu'elle était stressée par rapport à dealer avec les tasses. C'était probablement sa première, vraiment, son premier acte de diplomatie officielle.
Tu voyais qu'au début, elle voulait pas prendre la responsabilité. Elle a demandé aux Jedi, pouvez-vous négocier en ma faveur? Elle avait comme peur. Mm-hmm. Vraiment, Obi-Wan l'a forcé comme un peu à prendre ses responsabilités, puis il dit non, c'est pas à nous de négocier, c'est ton rôle à toi d'aller négocier avec eux.
Puis c'est ça que je m'attendais, moi, au départ d'Ahsoka. Ahsoka doit pas savoir tout. Elle doit être un peu, dans ma tête, elle devait être un peu plus comme la sénatrice, tu sais, plus pas indifférente, mais plus intimidée par tout le fait d'être Jedi. Mais bon, il voulait faire une personne forte, probablement d'Ahsoka, pour justement pour que les jeunes s'identifient à elle. Donc c'est pour ça.
C'est un peu ce qui est bon dans le film Clone Wars, c'est que vraiment elle prend les conseils, même si elle sauve souvent Anakin, là, encore, mm-hmm. Tu vois qu'elle est vraiment débutante, là, puis elle prend quand même les conseils là, que les maîtres lui disent. Là. Mm-hmm. Parce que présentement, dans la série Clone Wars, elle prend les conseils, mais je veux dire, elle domine quand même. Là.
Mm-hmm. En effet. Est-ce que tu as trouvé que les têtes de clones sur les lances, c'était un petit peu creepy, un petit peu bizarre surtout pour les jeunes, je dirais, qui regarderaient ça?
Oui, surtout si ça aurait pas été juste les casques.
Ouais.
Ça aurait vraiment été là. Ça aurait été un peu trop, peut-être, pour les mm-hmm. jeunes.
Mais t'as-tu remarqué dans la BD, c'était des casques de Snowtrooper qui étaient sur les perches. Tandis que quand on arrive ici, c'était des casques de Clone Trooper normal. Ah non, 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 ok. Il y a deux différents, parce que dans la BD, au début, tu vois des lances avec des casques de Snowtrooper à l'extérieur, donc probablement sur le terrain, ils ont planté. Tandis que ceux, dans la base, c'était des Clone Trooper avec des casques réguliers, donc c'est là la différence. Je pensais qu'il y avait une erreur ici, mais il n'y a pas d'erreur là.
Ça a été bizarre aussi de voir les têtes de droïdes, là. Je veux dire, c'est pas des casques. Là.
Ouais, j'avoue. Eux autres, ils étaient vraiment coupés la tête, là. Mais ouais, moi, je voyais pas les Tals faire ce genre de cannibalisme-là, parce qu'ils semblent vouloir la paix, ils semblent être pacifiques au départ. Donc, j'aurais plus vu comme que ce soit un groupe ou une espèce de race alien, tu sais, comme justement le film Alien qui tue tout le monde pour le fun, pour le plaisir.
ils ont dû être provoqués.
Ouais.
Surtout par les droïdes, probablement les séparatifs, puis après ça, les clones sont arrivés, puis mm-hmm. ils sont mêlés dans ça, là, mais...
T'as-tu remarqué que les montures des Tals, la première fois qu'on les voit, il y avait un visage comme General Grievous, puis il grognait comme si c'était le General Grievous. Il y avait le même filtre sonore, on dirait que ça faisait comme une espèce de...
Ouais, ça se ressemblait beaucoup,
Je me demandais s'il y avait pas un lien quelconque avec la race de Grievous ou quoi que ce soit, ou ben un peu comme aussi le beau gars. C'est l'espèce de lézard qu'Obi-Wan utilise pour poursuivre Grievous, là, dans la... Revenge of the Sith, là, l'espèce ouais. de lézard qui crie, qui a un son strident assez achalant, si on peut dire.
Ouais.
C'était le 25e épisode dans la production, donc on voit que plus qu'il avance, plus les épisodes sont meilleurs, autant graphiquement que l'écriture, que la musique, etc. Donc, 25, ça veut dire que ça aurait été un épisode qui aurait été dans saison 2. Normalement, parce qu'il y a juste 22 épisodes dans saison 1. Là.
Je sais pas. C'est vrai qu'on là, tu me dis le 25e épisode, c'est pas le 25e épisode.
C'est le 25e qui était listé en production. Donc c'est okay. le 25e qu'ils ont fait, mais il a été mis en onde 15e. Donc okay, il y en a 15 ça. Jusqu'à présent. Mais le numéro de production, c'est 25.
Ça va quand même assez vite quand on y pense. Hein. Mm. Ils vont atteindre le 100 assez rapidement.
C'est sûr, ils sont déjà en train de commencer la saison 3, là, donc ça va assez vite, merci. Et puis, l'autre chose que je voulais mentionner...
Oui, il y avait une affaire que j'avais notée, puis je savais pas c'était quoi, puis tu pourras le rajouter si tu veux l'ajouter. C'est le sigle que Anakin et Obi-Wan ont sur leur blason, si tu veux. Mm-hmm. Est-ce que c'est le sigle de la République en tant que tel?
Je pense que oui.
Avec une espèce d'étoile, là, mm-hmm. je sais pas. Mais peut-être que tu connais plus les symboles. Je sais qu'il y a comme une espèce de symbole à chaque ère de Star Wars. Là.
Ouais, mais c'est pas tout à fait les mêmes symboles qui représentent. Comme si tu regardes le symbole de l'ancienne République, c'était plus comme un T inversé, un peu comme le logo que sur le piédestal du Sénat. Tandis que là, c'est comme probablement plus un logo de l'armée de la République. D'après moi, là. Parce que ceux qui sont sur les tranches de livres, c'est pas une... ça représente, oui, ça représente les époques, mais il me semble sont pas tout à fait pareils. Mais c'est une bonne observation. Puis il était assez clair et précis, le logo, là. Dans le fond, là. Bon, on va parler du prochain épisode de Hidden Enemy. Ça a l'air vraiment concentré clone, un peu comme Rookies.
Ouais, mais on dirait que c'est un thème qui revient parce qu'il y a encore un trait. Avant, c'était un droïde, mais là, ça devient que c'est un clone. Donc, c'est une thématique qui revient. Là, je trouve que peut-être ça manque un peu d'imagination. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, voir si c'est vraiment plus différent qu'avec l'autre épisode que, où c'est le droïde, le R4, qui était le traître.
Goldie.
Ouais.
Mais t'avais aussi le capitaine Argaius, qui était un traître aussi.
J'avoue.
Donc, ce serait la troisième fois qu'il y aurait un traître en 15 épisodes, en 16 épisodes.
C'est un thème assez repris.
C'est ça. Le petit fortune cookie ou la morale de cet épisode-là, c'est « La vérité éclaircit votre esprit, mais n'amène pas toujours la joie à votre cœur. » J'essaie de voir le lien qu'il y a avec ça. Qui avec cet épisode-là, on va peut-être le comprendre mieux en le voyant. C'est un épisode concentré sur les clones, comme on a vu, puis c'est le retour sur Christophe 6. Donc, cet épisode-là est supposé se dérouler avant le film Clone Wars. Donc, c'est là qu'on voit qu'ils sont dans le désordre. Là. C'est leur arrivée sur Christophe 6. Donc, on risque de voir qu'est-ce qui s'est passé avant le film, justement. Là.
Donc, il n'y aura pas Ahsoka encore dans cet épisode-là?
Théoriquement, non. Mais c'est ça. Ils disent dans le preview qu'il devrait avoir un clone qui est un traître. J'ai un peu un problème qu'un clone puisse être un traître. Parce qu'ils sont comme programmés.
Ouais, mais on peut penser que c'est Asajj Ventress qu'on voit aussi dans le preview qui pourrait peut-être contrôler son esprit. Là, je sais pas. Tu sais, on peut vraiment contrôler une bande-annonce comme on. Parce que c'est vraiment le clone qui est traître.
Il y a le. Ben, il y a des rumeurs qui disent que ça serait un clone qui aurait été créé par les séparatistes qui ont comme infiltré. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va être. Le numéro de production, comme je disais, c'était 25, celui qu'on vient de voir. Celui-ci, je le sais pas. Mais si j'ai vu sur Wikipédia que le film Clone Wars, c'était les épisodes 18, 1, 3 et 4 mis ensemble. Dans les épisodes de production, donc probablement le premier était plus difficile à faire parce que plus d'éléments, c'est la bataille de Christophe VI, là. Okay. Mais ça a été 18, 1, 3 et 4. Donc, est-ce qu'on peut penser que ça serait le 17e en production si ça se passe juste avant?
Est-ce qu'il est arrivé au 2, en fin de compte?
Je sais pas.
On le verra jamais, le 2.
Faudrait voir, il est peut-être déjà passé dans la liste de production. Faudrait aller voir dans les archives sur StarWars.com. Il a peut-être jamais passé encore. Enfin, on va voir Ventress, comme tu dis, Obi-Wan et Anakin. Puis on voit Cody et Rex qui sont là aussi, donc c'est vraiment les personnes qui sont sur Christophe 6 au début du film. Puis on voit une super séquence qu'il y a Anakin qui fait comme un X dans le plexiglas ou le
trans... Avec un force push, ouais.
Ouais, puis il défait ça avec le force push, le trans...
Pas le transparesteel.
Ouais, c'est ça, le transparesteel, c'est ça. Donc le verre fait avec du métal, là, dans le fond. Qui fait un super... Puis j'aime bien le fait que les previews qui sont attachés avec l'épisode, c'est comme une narration faite par un des personnages, puis après t'as un deuxième preview qui est sur StarWars.com qui est plus un preview un peu différent, mais qui est comme qui est fait par le narrateur habituel. Donc je trouve ça bien intéressant.
C'est un bon marqué, vraiment.
Oui, il y a comme deux previews différents. Donc t'as celui qui est après l'épisode, puis t'as celui qui est sur StarWars.com par la suite. Mais enfin, j'ai hâte de le voir. Ça devrait être c'est un stand-alone, donc ça va être un épisode individuel, je crois. Parce que les deux prochains, c'est sur un virus, je crois. Donc, ça devrait être assez intéressant aussi. On approche de la fin de la saison 1.
C'est peut-être ça qui a fait convertir un des clones. Il est peut-être infecté.
Ah, peut-être. J'ai aucune idée, là. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Pour moi, c'est pas nécessairement le meilleur, mais parce que je veux dire, oui, les graphiques étaient super bien faits. Tu voyais le poil sur le capuchon de Anakin puis Obi-Wan qui bougeait. Puis il aurait peut-être pu mettre plus de détails. Ça avait l'air vraiment mou, là, mais tu voyais pas les petits poils individuels. En HD, ça aurait pu être excellent.
Ouais, s'ils peuvent les passer à la TV un moment donné.
ils ont encore du retard, j'imagine, de CTV.
Oui, je pense qu'il était rendu au 12e. Là. Il n'y a pas eu un épisode cette semaine, en tout cas, pas à CTV.
OK.
Donc, à cause que c'était le...
Super Bowl?
Non, il y avait quelque chose d'autre, là, vendredi.
OK.
Non, c'était dimanche, donc oui, c'était le Super Bowl à CTV.
OK, c'est ça. Le fameux Super Bowl. Enfin, c'était un bon épisode. J'en prendrais plusieurs comme ça. Ça a été un bon clin d'œil sur quelque chose qu'on avait vu, mais je serais pas prêt à prendre une trilogie ou une duologie dans la neige comme ça. Il me semble que c'était trop uniforme comme ton de couleur. Là.
C'est sûr que c'est différent beaucoup des batailles dans l'espace ou dans n'importe quelle autre planète où il y a beaucoup de végétation, beaucoup de vie. Ou, c'est sûr que c'est très monochrome un peu, si on veut, comme au niveau du graphisme. Mm-hmm. Mais moi, c'est l'atmosphère qu'ils ont mis dans cet épisode-là. Les textes, la musique, qui complémentent très bien les scènes d'action et les scènes de dialogue. Donc, c'était excellent pour ça.
Va falloir que je le réécoute juste pour me mettre mon attention sur la musique.
Moi, c'est sûr que je vais le réécouter puis avec le volume au maximum pour vraiment, là, c'est très bon.
Donc, ben merci de tes commentaires.
Pas de problème.
Ceci conclut cet épisode de Star Wars en direct édition Clone War. Je vous invite la semaine prochaine pour le prochain épisode de Star Wars en direct édition Clone War dédié au prochain épisode de Hidden Enemy. Je vous invite ce dimanche 19h heure de France, 13h heure du Québec à la 81e émission de Star Wars en direct où nous discuterons de l'actualité Star Wars du dernier mois. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.